Bonjour.
Merci d'accepter ce petit entretien. Est-ce que tu peux commencer
Avec
par
plaisir.
te présenter, s'il te plaît?
Oui, j'ai plusieurs prénoms, donc me présenter, c'est toujours un peu complexe en réalité. Je suis une personne trans masculine et je viens d'avoir mon changement à l'état civil, donc officiellement je m'appelle Léo. Mais comme il y a beaucoup de Léo sur le territoire, enfin, il y a beaucoup de Léo dans les personnes trans masculines. Par exemple, on me confond tout le temps avec Léo qui fait du drag show. Et du coup, je dois dire à chaque fois, ben non, mais moi, je suis Léo de Corrèze et ça, c'est Léo de Creuse. Et sinon, quand je suis dans le Lot, on me confond avec le Léo du Lot ou le Léo de l'Aveyron. Bref, je sentais que Léo, c'était un prénom pratique d'un point de vue administratif. Ça m'allait bien de m'appeler comme ça, mais que j'avais envie d'avoir un autre blaze qui serait mon blaze plus de personnes queer, de personnes trans. Et du coup, je m'appelle aussi Saul, comme l'arbre. Voilà.
Très bien.
Rien que comment je m'appelle, ça prend 5 minutes. Hein. Et j'habite en Corrèze depuis 10 ans.
Très bien. Et donc, tu es membre de l'association Encore, c'est ça?
Oui. Membre fondateur de l'association, coprésident, parce qu'on est une collégiale et on est 3 coprésidents, coprésidentes. Mais dans les faits, je suis quand même la personne qui initie les projets, voilà, qui les réalise pas forcément tous, mais en tout cas qui est souvent quand même dans le moteur de ce qui se fait avec Encore. Et c'est une association donc que j'ai créée en 2021. Les membres actuels sont pas les membres de la collégiale, quoi, sont pas les mêmes qu'à l'origine. Parce que l'intention aussi est un peu différente. À la base, je pensais faire une association pour être un support, pour faire des ateliers autour de la danse et du chant et de l'expression corporelle. Et en fait, ça s'est complètement transformé en une association qui parle beaucoup, beaucoup de consentement. C'est un peu quand même notre spécialité. Et où, surtout, on organise des événements festifs pour les personnes queer, mais ouverts à tout le monde, mais avec quand même l'idée que ce soit des événements en priorité pour les personnes LGBTQIA+. Et on fait ça depuis 2022. Voilà. Donc là, on est en 2024, c'est notre troisième année d'activité.
Et donc, vous êtes actif en Corrèze. C'est quoi votre,
oui.
Votre territoire d'action vos...
En fait, en 2022 et en 2023, on a fait un gros événement et un petit. Et donc, on a essayé de changer d'endroit à chaque fois. Et donc, le festival, il était à Cornille. En 2022, c'était tout au même endroit. Donc, à Cornille, dans les deux cas, le festival, puis un baltrad antisexiste. Et l'année d'après, on s'est dit qu'on voulait, en fait, circuler en Corrèze et on avait envie de se rapprocher du plateau. Et donc, on a organisé les Queerésiennes en juin 2023 à La Selle. Il fallait que ce soit en Corrèze parce que, par rapport aux subventions, en fait, départementales, il fallait que ce soit sur le territoire de la Corrèze quand même. Mais on voulait toucher des personnes de Nord-Corrèze, Creuse, limite Haute-Vienne, le côté et aussi de toucher la population militante du plateau, quoi. Enfin, voilà, coopérer. Je ne peux pas dire que ça a été hyper simple, la coopération, mais en tout cas, on avait envie de ça. Et après, la Boom Queer, qui était donc fin 2023, elle était à Orliac de Bar. Et que ça s'est super bien passé. Et donc, en fait, on va refaire des booms là-bas. Donc, des soirées de juste un après-midi, une soirée, point. Et on en refait une, donc, samedi prochain, dans la même auberge à Orliac de Bar. C'est à côté de Nave et donc à côté de Tulle. Voilà.
Et donc, ce festival des Queerésiennes, est-ce que tu veux bien un peu en parler, raconter ce que c'est?
Ça avait lieu en juin dernier à La Selle. En fait, on cherchait un lieu, une association pour être support de l'événement. Et donc, on a été en partenariat avec l'Amicale Millefeu. Et donc, en fait, l'événement, il avait lieu dans les locaux de l'Amicale Millefeu, mais aussi dans les locaux municipaux, c'est-à-dire des salles municipales, le camping municipal qu'on avait privatisé. Bah, d'ailleurs, il était privatisé, mais la maire elle a quand même laissé un camping-car s'installer quand on était en plein montage et on a dû dire au monsieur qu'il ne pouvait pas rester en fait là parce qu'il allait se retrouver au milieu d'un festival. Et il disait, mais moi, ça ne me dérange pas. J'étais là, non, mais c'est nous que ça dérange. Enfin, c'était un homme blanc hétérosexuel de 50 ans. C'était pas notre public cible, on va dire, de ce festival-là. Voilà, et donc, bon, bref, la mère, finalement, elle lui a dit de partir, en effet, et a râlé contre nous, alors qu'il était privatisé. Bref, donc ça, c'est juste pour l'anecdote. Mais, et donc, en fait, c'était un événement, ça s'appelait les Couraisiennes Rencontres autour du consentement. Et en fait, on avait envie d'aller explorer plus de plein de facettes différentes les questions du consentement, parce que en fait, c'est politiquement, en fait, on oppose la culture du consentement à la culture du dépassement de soi qui va jusqu'à la culture du viol. Mais en fait, donc le consentement, c'est pas juste une pratique une fois, c'est vraiment toute une culture et c'est toute une manière de d'apprendre à communiquer, que ce soit verbalement, non verbalement, ça dépasse évidemment la question de la sexualité. Et du coup, je crois qu'on était un peu frustrés que sur un atelier de consentement de 2 heures, à chaque fois, on voyait qu'une des millions de manières de parler de consentement. Et du coup, de faire un événement qui soit vraiment dédié à ça, à la fois dans les ateliers, mais aussi dans la manière dont l'événement était conçu, en fait. Voilà. Et donc, ça a duré 3 jours. Il y avait des ateliers prévus par nous, des ateliers spontanés, des spectacles en soirée. Par exemple, un des exemples qui dépasse la question de l'atelier, des ateliers autour du consentement, c'est pendant le drag show qui était organisé par les cabarets, qui est le cabaret queer de Creuse. Je ne sais pas si elles ont refait des dates, en fait. C'est Léo, Princesse Pudeur, qui avait lancé ça l'an dernier. Et il y a eu des répètes tout le printemps. Et leur première date, c'était donc pour les Couraisiennes en juin dernier. Mais je ne sais pas depuis s'il y a eu d'autres dates, en fait, de ce cabaret-là. Mais en tout cas, c'était un cabaret avec des numéros qui étaient préparés par ce cabaret queer qui s'appelle les cabarets comme les cas CAS, plus loin BA, 2REX, quoi. Et en fait, il y avait deux maîtres de cérémonie et qui faisaient super bien leur taf de faire des blagues entre les numéros. Mais surtout, en fait, qui annonçaient les trigger warnings de manière très ludique et drôle. Enfin, c'était pas... ça disait bien, là, il va y avoir du bruit, de la guitare électrique très fort, en fait, il y a des bouchons d'oreilles là, si vous en voulez, levez la main, enfin, voilà. Et notre, donc, bon, ça, c'est une question physique sur le bruit, mais en fait, il y a eu un numéro qui était avec un jeu autour du petit chaperon rouge, je crois, et où ça disait, en fait, là, ça va parler d'inceste, donc si vous avez besoin de sortir de la salle, on vous invite à le faire. Et en fait, un des maîtres de cérémonie est sorti et a dit, moi, par exemple, je vais sortir. Et en fait, ça, je trouve ça hyper fort, parce que moi, je suis sortie aussi, pour ça, je m'en souviens pas bien. Et en fait, on a été 3-4 à sortir. Et le fait d'avoir... Parce que... C'est une chose d'avoir quelqu'un qui dit ça va parler d'inceste, et c'est une autre chose d'avoir cette personne-là qui sort physiquement et qui du coup ouvre la porte et en fait permet d'autant plus aux autres de sortir. Et il y a quelque chose autour du consentement qui est que c'est pas que la question de comment quand on organise en fait quelque chose, en fait la responsabilité de la personne qui organise ou qui a le pouvoir, c'est de laisser le plus de portes ouvertes possible, métaphoriquement, pour pouvoir sortir sans avoir à se justifier, pour pouvoir arrêter l'activité et que ce soit très facile d'arrêter l'activité. Et là, c'était plus que métaphoriquement, quoi. C'est-à-dire physiquement, il s'est déplacé au milieu de la foule, il a ouvert la porte et en fait, j'étais hyper impressionnée par ça, en fait. Alors qu'on n'avait pas fait cette demande particulière, mais en fait, à partir du moment où c'était un événement autour du consentement, elles avaient vraiment pris la mesure de ça et dans la manière dont c'était filmé, enfin tout ça, c'était plein de choses étaient favorisées le consentement pendant le spectacle aussi. Par exemple, il y a une personne qui était prise dans les bras dans le public, cette personne avait été prévenue avant. Alors moi, je suis toujours très très gênée quand dans un spectacle de clown dans la rue, là, il y a quelqu'un qui est du public qui est pris au dépourvu et qui doit se retrouver à faire quelque chose d'un peu ridicule, que ça fait bien rire, je déteste ça. Et là, y avait ce truc de prise à partie du public, mais j'avais juste capté, juste avant le spectacle, que cette personne, en fait, on lui avait demandé avant. Et voilà. Donc, bon, bref, je viens de faire un espèce de monologue sur ce spectacle, mais parce que c'était pour illustrer qu'on avait envie de vraiment vivre la culture du consentement dans plein de gestes. Et évidemment, il y a eu des ratés, hein, parce que c'est une expérimentation et c'est une culture en création, quoi. Enfin, voilà. Donc ça, c'est un peu notre truc, notre marotte.
Ouais, si je comprends bien, c'est aussi l'idée d'expérimenter et de vivre d'autres formes, d'amener la question du consentement en dehors un peu du côté presque institutionnel et obligatoire tel qu'il peut être présenté dans plein de cadres, oui. En fait, de dire ah oui, il faut ça. Faire une déclaration avant, etc. Et là, de l'expérimenter d'une manière qui s'intègre à la vie et au quotidien.
Oui, c'est ça. Ouais, complètement. Et en fait, une fois qu'on y a pris goût, et c'est ce qui est mon cas, c'est un peu difficile de faire autrement. Hein. Enfin, c'est-à-dire que maintenant, moi, je suis surpris, difficile dans le sens où je suis surpris quand rien qu'on me parle d'un sujet délicat sans m'avoir prévenu. Mm. Je vais être là genre waouh, quoi ? Enfin, voilà. Et je vais avoir envie, moi, de vérifier la disponibilité émotionnelle de quelqu'un avant de lui parler d'un sujet délicat ou difficile, que ce soit délicat, traumatisant, ou que ce soit, y a un truc, faut qu'on en parle, quoi. Et en fait, oui, c'est vraiment cette habitude-là de vérifier le consentement à tout moment. Et ça c'est super précieux, et c'est précieux aussi, c'était précieux de le vivre pendant 3 jours avec les aléas quand même de c'est un festival, donc il y a plein de choses pas prévues, il y a des trucs des fois on le fait et ça n'a pas respecté le consentement, mais en fait on a agi dans l'urgence et tout ça. Mais en tout cas, il y avait quand même, donc il y a eu des erreurs et notamment de ma part, mais il y a quand même eu ce retour-là qui était waouh, pendant 3 jours on était avec des gens qui avaient envie de vivre cette culture-là. Et donc en fait, on n'était pas juste 3 à vouloir faire ça, quoi. On était 120 ou quelque chose comme... Non, 120, c'était le total. Mais oui, bon, peut-être en permanence, on était 60, entre 60 et 80, à avoir envie de ça. Et du coup, pas être les relous de service, quoi. Voilà. qui ont envie de parler de consentement.
Tu disais qu'il n'y aura pas d'édition en 2024. Est-ce que c'est un projet, justement, de faire réexister ces journées à un autre moment ?
Oui, on avait très envie juste après, concrètement, comme je te disais aussi que je suis pas mal locomotive, cette année j'avais d'autres priorités personnelles et du coup vraiment pas l'énergie à mobiliser en fait pour un gros événement comme ça, qui était plus petit que les décors et des cœurs, mais c'était quand même énorme. En termes de, pas parce qu'il y avait beaucoup de gens, mais parce qu'en fait, on était tous des perfectionnistes avec justement un souci du détail pour que le consentement soit le plus favorisé dans le plus de cas possible, et qui fait que le détail, ça demande du temps. Voilà. Donc en fait, là voilà, on a tous les membres qui étaient actifs l'an dernier, on avait tous d'autres projets en fait cette année. Et du coup, on s'est dit qu'on préférait pas refaire, mais avait quand même une envie de refaire quelque chose. Mais après, ce sera pas forcément... Enfin, moi, je suis tout le temps en train de changer. Là, en ce moment, j'anime plus d'ateliers sur le consentement. Là, en ce moment, ce qui me plaît vraiment, c'est la question des oppressions systémiques, notamment du racisme. Et je fais des ateliers auprès des personnes blanches là-dessus. Je m'intéresse pas mal à la gestion de conflits. Enfin, et du coup, je vois que c'est des sujets qui découlent de mes préoccupations sur le consentement, par exemple. Les rapports de pouvoir, en fait. C'est-à-dire que le consentement n'est jamais libre entre des personnes qui ont des rapports de pouvoir différents. Mmh. Et donc, par exemple, entre des personnes racisées et des personnes blanches, mais aussi entre les enfants, les adultes et tout ça. Et donc, disons que les questions de consentement m'ont amené à plutôt, en ce moment, être sur mes lectures, mes ateliers, tout ça, sont plutôt sur la question des oppressions systémiques. Donc, ce sera peut-être un événement, un jour, qui sera plus orienté sur les oppressions systémiques. Et peut-être ce sera pas avec l'association encore, ce sera avec une autre asso dont je fais partie. Enfin, voilà, je sais pas, en fait, vraiment la forme que ça prendra. Ce que je sais, c'est que j'aime organiser des événements. et qu'il y a cette asso-là qui a ce un peu maintenant qui est reconnu sur les questions de travailler sur le consentement.
Oui, et qui permet du coup de donner lieu à ces projets-là.
Oui.
Voilà. Alors, on a parlé de festivités, de se retrouver ensemble, de consentement, de corps. Je pense qu'on a bien placé les bases pour parler d'une boom queer.
Ça va avoir lieu samedi prochain à Orliac-de-Bar, à l'Auberge de la Tanière, qui est une auberge qui est tenue par un groupe de copaines qui sont plutôt, eux, culture anard squat, on va dire. Enfin, c'est ça leur parcours de vie jusqu'à présent. Et voilà, ils ont repris une auberge et ils la font vivre avec une soirée à peu près une fois par mois, des repas sur réservation. Ils font la cantine de village aussi, enfin de l'école, le midi. Je dis ça comme ça parce que je trouve ça cool. Et en fait, il y a plusieurs salles. Comme c'était c'est une ancienne, elle ne sert plus en tant qu'auberge pour loger les gens, mais il y a des chambres à l'étage. Et donc, ça permet de loger les orgas, les artistes. Et en tout, il y a les salles où il y aura plusieurs activités, en fait, selon les salles. Voilà. Et en fait, la personne avec qui j'organise ça le plus, mon interlocutrice principale, c'est Zaza.
Qui est déjà passée sur les ondes de Radio Vestiviaire. Les auditeurs et les auditrices pourront peut-être la reconnaître.
Pour parler de quoi, du coup ?
Et c'était pour un atelier radio pour apprendre à servir de la console. Et donc, c'était une journée pour la Journée mondiale de la radio. Voilà.
Ok, super. En fait, Zaza était organisatrice des Queeriesiennes. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble, quoi. Et en fait, l'auberge s'occupe de vraiment la question logistique pratique, c'est-à-dire le bar, la nourriture, le matériel fond. Et encore, on s'occupe plutôt de la programmation, la gestion des bénévoles, l'équipe soins consentement pendant la soirée, un espace style, un espace maquillage, un peu tout ce qui va être le contenu de la soirée, en fait. On va dire que l'auberge gère le contenant et nous, on gère le contenu ensemble et on se répartit après aussi les éventuels bénéfices. Donc ça, c'est pour comment on s'organise. C'est une coproduction, quoi. Et du coup, cette soirée, en fait, c'était trop bien en octobre parce que il y avait vraiment un rapport énergie dépensée à organiser et retour sur cette énergie dépensée très positif. Pas beaucoup d'énergie dépensée et vraiment, c'était super. Alors que les festivals, on va dire que ça a un impact plus important, mais que par contre, c'est vraiment fatigant, quoi. Le ratio, qu'est-ce qu'on y gagne sur le moment. Je pense, à titre personnel, sur le long terme, j'y gagne plein de choses. Mais sur le court terme, après un festival, pendant un mois, je suis épuisée, quoi. Minimum. Alors que là, après la soirée, ok, je fais une bonne nuit et deux jours après, c'est bon. Enfin, je peux reprendre le cours de ma vie. Et donc vu qu'on est plein à avoir plein d'autres projets prenants, on avait quand même envie d'avoir quelque chose, une fête, quoi, pour se rassembler, mais pas d'y passer des mois à préparer et des mois à s'en remettre aussi. Et en plus, ça a aussi fait venir, la dernière fois en tout cas, des gens qui seraient pas venus à un événement de trois jours, en fait. Mais qui, par contre, sur une soirée, se déplacent. Et je ne sais pas ce que ça va être samedi prochain, parce qu'on ne sait jamais à l'avance. Mais en tout cas, la dernière fois, il y avait des jeunes de 20 ans. J'ai l'impression d'être trop un vieux quand je dis ça avec mes 34 ans. Mais en tout cas, un groupe de potes d'une vingtaine d'années de Brive. Et il y avait aussi au moins deux couples de lesbiennes qui avaient 60 ans à peu près, et qui était apparemment trop émue de voir toutes ces personnes queer, parce que elles sont en Corrèze et qu'on est invisible, en fait. Enfin, voilà. Et ça nous a beaucoup touché, en fait, de voir la diversité du public sur une soirée. Voilà.
Et donc, je réalise mes
pensées.
Je n'ai
pas parlé de la programmation, mais peut-être j'en parle après. Enfin,
voilà. Ouais, j'avais une question un peu plus basique que ça, déjà.
Oui.
C'est quoi une boom queer ?
Ah ! C'est quoi une boom queer ? J'ai du mal à répondre à ça parce que j'ai l'impression qu'il faudrait répondre sur une, c'est une boom qui représente la culture queer, et qu'en même temps, en disant ça, je me mets un piège à moi-même parce que qu'est-ce que la culture queer ?
Bah, tu as parlé, par exemple, de consentement. De...
Oui, il y a la question du consentement. Donc, il y a une équipe de bénévoles qui est là vraiment pour s'assurer que la soirée se passe au mieux pour le plus de gens possible. Il y a beaucoup d'affichage pédagogique là-dessus. Et il y a... la boum, elle devient queer à partir du moment où il y a des personnes... En fait, voilà, il y a la question de qui vient et il y a la question de qu'est-ce qui est programmé. Et il y a la question de à quoi ça ressemble. Donc, à quoi ça ressemble, ça va être une décoration avec des choses queer, par exemple, et de l'affichage queer. La programmation, ça va être... c'est que des personnes trans qui sont programmées. Ça met une ambiance. Et du coup, ces personnes trans, trans et ou non binaires, diffusent des choses... qui font partie de leur culture de personnes queer et ou trans. Et après, il y a la question du public. Parce que, par exemple, moi, je suis déjà allée à plusieurs événements qui étaient organisés par des hétéros et qui programmaient des personnes queer. Donc, du coup, qui avaient l'impression que c'était un événement queer. Mais en fait, ça ne l'était pas parce que le public ne l'était pas assez, en fait. Ou parce qu'il y avait plein de petits codes qui n'étaient pas intégrés. Parce qu'en fait, quand on n'est pas concerné, on ne s'en rend pas compte. Donc, par exemple, à un théâtre qui a organisé une... Pas en Corrèze. Qui a organisé une soirée queer cette année, il y avait quand même les toilettes. Il y avait quand même un panneau avec écrit « filles, garçons ». Et il y avait des femmes hétéros, je pense, qui faisaient la queue du côté des filles et qui c'était elles qui avaient choisi de le faire. Hein. Enfin, c'était pas demandé par leur gars, mais qui du coup vérifiaient que les personnes qui allaient dans les toilettes des garçons étaient bien des garçons. Mmh. Et en fait, il se trouve que devant moi, il y avait un mec trans qui a un bon passing et moi qui ai un passing nul. Le passing, c'est la capacité à être perçu comme... genre, moi, je suis un homme trans et du coup, je voudrais être perçu comme un homme. Actuellement, je suis toujours perçu comme une femme. Et du coup, nous, on était hallucinés en fait, d'avoir cette binarité dans les toilettes, alors que c'est assez symbolique, hein, en plus, les toilettes pour les personnes trans. Enfin, voilà. Et du coup, ça, les orgas qui étaient hétéros, ou pas forcément hétéros, mais en tout cas cis, n'y ont pas du tout pensé. Donc, c'est un peu une espèce de petits détails qui vont faire qu'il y a des éléments en fait, de culture qu'on va retrouver dans plein de petits détails. Et après, dans les gens qui sont là, en fait, qu'est-ce qui fait qu'on a l'impression que c'est une boom queer? C'est quand on a l'impression que les personnes queer sont en majorité. C'est-à-dire que oui, il y a des personnes hétéros, mais que pour une fois, pour les rares fois, ces personnes-là sont en minorité et du coup sont là pour regarder notre culture et apprendre de cette culture-là, pas dans un mode consumériste. Parce que ce qui est un peu pénible, notamment avec cette fête-là qui était dans ce théâtre, c'est quand on a l'impression que la culture queer n'est vue par les hétéros que comme une culture de paillettes, arc-en-ciel et que c'est super fun d'être queer, alors qu'en fait quand on le vit et notamment en milieu rural, en fait on sait qu'on vit de l'homophobie latente tout le temps ou de la transphobie latente, que on n'est pas à l'aise, que tout ça, et du coup en fait on veut faire la fête, mais on veut aussi faire la fête pour être entre nous parce qu'on n'a pas d'entre nous le reste du temps. Voilà, je sais pas si ça répond à qu'est-ce que c'est une fête queer.
Ouais. Je pense que ça répond plutôt bien à la question.
Ok.
Et du coup, tu parlais de la programmation. Qu'est-ce que c'est cette programmation?
Alors, la dernière fois, on avait fait que des DJ sets. Et on s'est dit que cette année, on avait envie de aussi avoir un spectacle pour avoir un support de discussion, en fait, après le moment de la fête. Enfin, voilà, que ça puisse nous nourrir. Nourrir nos réflexions, nourrir nos esthétiques, nos imaginaires. Et aussi parce qu'il y a des personnes qui n'aiment pas forcément les DJ sets et qui peuvent avoir envie de venir que pour le spectacle, par exemple. Ça fait aussi partie, on va dire, de la culture du consentement. C'est comment on essaie de proposer des choses qui vont correspondre à plein de gens différents et avec des besoins différents. Donc le fait d'avoir un espace calme, un espace où il y a du bruit, un espace... Voilà. Et donc, pour commencer, en tout début de soirée, donc dans l'après-midi, il y a un café queer Donc là, c'est en mixité queer, justement, donc qu'avec des personnes queer, ce qui permet à des personnes qui viendraient seules, en fait, à la soirée, de déjà commencer à rencontrer des gens dans un cadre où on est posé, on boit de la tisane. Et ça, voilà, on tient vraiment à ce côté-là de mixité choisie et de rencontres avant pour les un peu les queer calmes qui sont quand même bien notre public aussi. Et après, il y a donc une playlist qui est gérée par Pauline avec une playlist festive et les gens peuvent rajouter des choses. Enfin voilà, là c'est participatif et c'est un peu le moment du repas, ce genre de choses. Ensuite, il y a un spectacle qui s'appelle Turbo. C'est la Compagnie du Feu qui le produit et c'est un artiste toulousain qui est sur scène, c'est un seul en scène, et avec à la régie aussi un Toulousain. J'ai vu ce spectacle donc en mars dernier. L'artiste est Coco BG qui fait beaucoup de drag à Toulouse. Donc drag, c'est le fait qu'il performe les codes de la masculinité. Pour à la fois se réapproprier ses codes et s'en moquer. Je sais pas vraiment, il y a plein de définitions de drag encore, qu'est-ce que c'est, mais voilà. À la base, c'était plutôt les drag queens qui étaient connues, et là, lui, c'est plutôt la culture drag king, et qui est une culture qui est beaucoup plus. Les drag kings font beaucoup plus. C'est plus politique, dans le sens où c'est plus de la critique du patriarcat aussi, souvent quand même. Mmh. Alors que les drag queens. Il y a un côté plus, fantastique, exceptionnel, de l'ordre de la performance de la transformation, quoi, et du maquillage et tout ça, et de la danse, le côté plus spectacle, alors que les drag kings, il peut y avoir ça, mais il y a quand même un côté souvent politique aussi, dans lequel moi je me reconnais bien, et les autres membres de l'asso aussi. Et donc ça, c'est ce que Coco BG fait en général. Et là, son spectacle en particulier, en fait, il est sur scène tout le long, pendant une heure et quart. Et il passe d'un personnage à un autre pour raconter une histoire. Et c'est assez touchant parce qu'il y a vraiment des moments d'émotion ou des moments où on est très en colère, où on rigole beaucoup, ou d'autres où on a envie de pleurer. Enfin, il nous fait vraiment passer à travers plein de personnages et c'est assez... C'est assez autobiographique aussi, même si c'est romancé, c'est fictionné aussi. Enfin voilà, donc c'est un spectacle qui est touchant et qui, je pense, correspond à ce qu'on s'était dit, qu'on avait envie d'apporter des émotions, du politique et de la réflexion pendant cette soirée. Voilà, ça c'est pour Turbo et c'est pour ça que la soirée s'appelle Turbo Paillettes. C'était par rapport à ce spectacle. Et ensuite, en troisième partie, il y a Traz, qui est un DJ Selecta, donc qui présente des sélections d'autres morceaux, enfin qui crée pas, et qui passe que des groupes de personnes minorisées, que ce soit des femmes, des personnes queer, des personnes racisées, enfin voilà, qui vise vraiment à mettre en avant la culture de personnes qui ne sont pas des hommes blancs hétéros de 50 ans. Voilà. Et généralement, c'est le feu, les sets de Traz. Voilà. J'ai assisté à beaucoup d'entre eux, et notamment en Queerésienne, c'était lui qui avait mixé, et voilà, il y avait vraiment une demande à ce qu'Yel revienne. Voilà pour la soirée. Et le lendemain, ah oui, l'auberge organise, mais ça c'est pas du tout nous, un marché de producteuristes, parce qu'Yel font ça à peu près une fois par mois, et du coup ça va tomber là, le lendemain, donc les personnes qui restent sur place, parce qu'il y a possibilité de rester sur place en camion ou entendre discrètement dans le village, peuvent aller au marché de producteurs le lendemain.
Et ben ça fait très envie, ça donne envie d'aller se balader du côté de la Corrèze. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu le rendez-vous, le lieu, la date, l'heure?
Oui, alors, ça s'appelle Turbo Paillettes. Les informations sont sur le site internet de encore19.wordpress.com. sur la page Facebook de Encore et aussi sur la page Facebook de Dégenré, qui est un groupe qui rassemble en fait plein les événements queer et féministes de Corrèze, pour que ce soit tout visible sur un même endroit, c'est sur la page Facebook de Dégenré. Dégenré 19. Et donc l'événement s'appelle Turbo Paillettes, c'est à Orliac de Bar près de Naves. Ça commence à 17h30 pour le café queer et à 20h le début de la soirée, jusqu'à 2h du matin. Il y a restauration sur place, bar, buvette. Voilà. Et on cherche des bénévoles encore en sans consentement. Voilà, si jamais.
Justement,
et il faut réserver. Ah oui, invitation à réserver. Parce que si la Creuse, ça ne doit pas vraiment être mieux que la Corrèze en termes de météo imprévisible. S'il pleut, le spectacle devra être en intérieur. Et auquel cas, la jauge est limitée. Voilà. Et si c'est en extérieur, bah, on peut être autant qu'on veut. Mais si vous voulez une place pour le spectacle et qu'il pleut, bah, il faut avoir réservé à l'avance sur Eloisseau.
Très bien. Eh ben merci beaucoup. Si on trouve que tous ces projets, c'est super, qu'on a envie de participer en tant que bénévole à la Boom Queer, ou qu'on se dit, mais les queerésiennes, ça a l'air trop bien, il se trouve que j'ai plein d'énergie et plein de temps, est-ce qu'on peut vous contacter, vous rejoindre?
Oui, tout à fait. Oui, vous pouvez nous écrire. Notre contact, l'adresse mail, c'est encore, donc ENCORTS, comme le corps humain, @illico avec un L.org. Et sur notre site internet aussi, il y a nos coordonnées sur Facebook. Voilà, on fait avec les énergies en présence.
Et ben merci beaucoup, Saul, de nous avoir accordé cet entretien. Et à bientôt sur les ondes de Radio Vestiaire.
Oui.